Nous sommes quittés la semaine dernière en nous rappelant que Dieu était un artisan qui nous modelait tous et nous faisait grandir spirituellement, chacun de manière différente. Donc on n'était pas dans une dimension stacanoviste des choses ou productiviste. On n'est pas reproduit à la chaîne, nous sommes différents. J'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui, qu'on tente de réfléchir dans cette dimension de disciples à nos spécificités à chacun. Nous sommes tous différents, donc ça implique que notre chemin relationnel avec Dieu sera différent lui aussi. Lorsqu'on prend certains hommes du Nouveau Testament, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas m'empêcher de voir une chose toute bête. C'est que quand vous prenez Paul, par exemple l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, et vous comparez leur système de fonctionnement, même si ce sont deux très grands hommes de Dieu, il n'y a pas de problème avec ça, ben ils sont différents, ils fonctionnent différemment. À travers les lettres du Nouveau Testament qu'ils ont écrites, qu'ils nous ont laissées, on peut remarquer que dans ce qu'ils expriment, ils manifestent des couleurs de personnalités différentes. Le roi David, 1000 ans avant la naissance de Jésus, faisait déjà référence à cette dimension dans le très beau psaume 139. Voilà ce qu'écrit David. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. » Dans le même psaume, un peu plus loin, David ira même jusqu'à dire « Je n'étais pas caché devant toi lorsque tu me tissais dans le ventre de ma mère. » Donc on a donc là une idée de connaissance profonde de Dieu, de l'être de David. Cet être, d'après David, a été produit, formé, fabriqué, si vous préférez, même si je n'aime pas le terme, par Dieu. La première question qu'on doit donc se poser, en rapport avec nos sujets d'aujourd'hui, c'est quel est mon tempérament ? Si vous voulez une petite idée comme ça, très vite, demandez à votre entourage. Ils vont vraiment vous aider à vous dire quel genre de personne vous êtes. Ne posez surtout pas la question à Isabelle après le culte, je serais vraiment très embêté. Il y a très longtemps que des spécialistes en psycho, entre autres, ont classé les différents types de personnalités et les ont répertoriés sous un certain angle. Êtes-vous introverti ou extraverti? Fonctionnez-vous sur base de faits ou êtes-vous plutôt intuitif? Êtes-vous quelqu'un qui analyse ou quelqu'un qui ressent les choses? On peut mélanger les trucs et on y reviendra. Mais êtes-vous quelqu'un d'ordonné dans votre façon de penser? Ou êtes-vous quelqu'un plutôt flexible et spontané? Alors, comme je suis un gentil petit berger, j'ai fait l'exercice pour moi-même. En ce qui me concerne, je suis un EIRS. Ça en jette. Donc, je suis un extraverti. Dans ce que je fais, vaut peut-être mieux. Intuitif, je perds ma phrase, dans le ressenti et spontané. Mais, je vous rassure, qui pense quand même un petit peu. Mais il vaut peut-être mieux pour vous aussi. Alors, chaque être humain possède un tempérament, ce qui signifie que certaines pratiques vous viendront plus naturellement que d'autres, parce que vous êtes câblé pour ça au départ. Ces différents tempéraments ne sont pas meilleurs ou pires. Ils sont simplement différents. Même si après de très nombreuses et profondes recherches théologiques, j'ai découvert à ma grande surprise que Jésus était comme moi un EIRS et qui pense aussi. Ça m'a rassuré. Donc tout le monde a besoin de passer du temps dans la solitude, par exemple. Je vous assure, c'est important. Solitude avec Dieu, bien sûr. Mais si vous êtes introverti, vous aurez une plus grande capacité, sans doute, à vous retirer du bruit, à vous retirer de la foule, de ce que vous avez à faire, en fait, au quotidien, pour chercher un moment de calme. Alors, je vous l'ai dit, je suis un extraverti, mais j'ai appris à aimer le silence. Parce que le silence, rappelez-vous, on a besoin d'eau, de lumière, de nourriture. Ben, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Même si vous êtes quelqu'un d'extraverti qui aimait le contact social, vous allez avoir besoin de silence et de vous retrouver avec Dieu dans un moment de solitude. Il n'en reste pas moins que la solitude n'arrive pas par accident. Donc ce que nous devons installer, ça ne s'installera pas tout seul. Il va falloir le mettre dans les agendas. Les circonstances de la vie, je pense que nous sommes tous un peu au courant, ne collaborent jamais à ce qui est le meilleur pour nous. Nous allons devoir donc installer. Vous voulez faire une retraite dans le silence, il va falloir la planifier, l'organiser et la réserver. Elle ne va pas tomber du ciel toute seule. Je vais donc, et ça c'est important de comprendre, je vais donc devoir choisir la solitude parce que j'en ai besoin. Et le plus simple moyen de le faire est encore une fois, de prendre mon agenda et de le faire. Nous aurons donc toujours à choisir ce qui va nous faire grandir. Dieu nous explique, hein, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce dont nous avons véritablement besoin. Mais il va quand même, comme il ne viole personne, il n'abuse personne, il ne force personne, c'est une dimension d'amour, on va devoir installer, choisir ce que lui nous dit, ce dont nous avons besoin, pour grandir. Si vous êtes un introverti et que vous aimez la solitude, cela ne signifie pas pour autant que vous êtes plus spirituel que votre épouse ou votre mari extraverti pour qui, par exemple, le contact avec les gens est plus simple et plus facile. Les extravertis qui vous entourent ont un avantage sur vous dans leur capacité à créer du lien avec les autres, parfois, hein, parce que parfois ça peut être submergent aussi, hein, et donc potentiellement à les aimer puisqu'ils ont plus facile dans le contact social. Mais vous pouvez, vous l'introverti, demander à Dieu de vous aider à aimer les autres, à être plus spontané. Et surtout, comme vous aimez la solitude la plupart du temps, vous pourrez prendre du temps pour prier pour tous ces gens avec qui vous avez parfois plus de mal à rentrer en contact. J'en ai quelqu'un qui est extraverti et qui ressent profondément les choses. C'est comique, hein, mais il ne se sent jamais plus immergé dans le courant de l'esprit que lorsqu'il se trouve plongé dans les problèmes d'une autre personne. Et de manière peut-être très ironique, c'est dans ces moments où il essaye d'aider les autres que Dieu lui fait du bien, que Dieu le fait grandir, l'aide à grandir. Donc lui, dans son quotidien, il va apprendre, c'est ce qu'il a fait, il a un ministère dans ce domaine-là, hein, en psycho, si vous préférez, en psychothérapie, il installe ses rencontres. Mais au départ, ça n'est pas simplement un métier pour lui, c'est simplement quelque chose qu'il a appris, auquel il était appelé par Dieu, mais aussi qu'il apprend à grandir lui-même. Alors, dans un autre cas, j'essaie de donner des exemples pratiques. Certains d'entre vous sont certainement, ou peut-être, très ordonnés, très méthodiques. Autrement dit, vous n'aimez probablement pas que quoi que ce soit dépasse, au propre comme au figuré. Alors si c'est le cas, spirituellement, par expérience, vous aimez probablement les listes de prières. Ma belle-maman adore les listes de prières. C'est quelqu'un de terriblement méthodique, au secours. Donc elle liste des noms, et ça fait 50 ans que ça dure, hein. Ben, peut-être un peu plus. 60 ans, allez, je vais être fou. Et tous les jours, mais je dis bien tous les jours, tous ces noms vont arriver devant la face de Dieu. Hein. Elle va prier pour ces gens tous les jours. Elle fait des listes. Alors moi, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, ça peut être non. J'ai tenu 2 jours. Pas pourquoi ? Parce que je suis un spontané. Moi, les listes, pas pour ça que je prie, pas pour vous, les petits choux. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein, mais moi, c'est l'Esprit Saint qui me suggère de prier pour vous. Pas une liste. Donc voilà. Et c'est très bien les listes. Si vous êtes câblé comme ça, c'est génial. Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas un mauvais chrétien, un pauvre type ou une pauvre fille, parce que vous n'êtes pas foutu de faire des listes. Je dis ça parce qu'on a une faculté extraordinaire, nous les êtres humains, à quantifier les choses et à mettre les gens dans des cases. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Parce que si vous n'êtes pas câblé de cette manière-là, je reprends mon exemple des listes. Il va se passer un truc. Comme vous n'allez pas réussir à garder ça dans votre vie, au quotidien, vous allez vous dire, je suis vraiment nul. Hein. Donc, il y a de la culpabilité qui va arriver. Et alors que vous êtes en train de réfléchir à votre vie de prière, à votre vie relationnelle avec Dieu, il va se passer une chose, c'est que vous allez fuir cette vie parce que vous vous sentez coupable. Donc, plutôt que de vous rapprocher de Dieu, ce qui, au départ, semble être une discipline spirituelle à mettre en œuvre, ça va devenir une raison pour laquelle vous allez vous éloigner de Dieu. Enfin, c'est complètement fou, ça, quand même. Mais on fonctionne comme ça. Hein. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Donc, vous n'aimez pas moins Dieu parce que dans vos tentatives d'être plus proche de lui, il y a des chemins qui ne vous conviennent pas. Ça ne vous convient pas, vous barrez la case, c'est pas pour moi, ça ne me convient pas. Il faudra prendre un petit temps pour découvrir ce qui vous convient. Mais croyez-moi, le chemin en vaut la peine. Donc les gens spontanés, par exemple, sont tout aussi capables d'aimer que les personnes bien organisées. Ils sont juste un petit peu plus bordéliques. À titre personnel, ceux qui connaissent Isabelle depuis longtemps savent, et c'est bien chouchou que tu ne m'en voudras pas, savent qu'à la base, Isabelle est une bordélique. Alors, quand nous étions jeunes mariés, ça, petite parenthèse, secret d'État, quand nous étions jeunes mariés, moi, je suis plutôt, à ce niveau-là, plutôt ordonné. Moi, j'aime que les choses soient un minimum à leur place. Au début, je me suis dit, ça n'est pas possible, quoi. Moi, je ne vais pas survivre dans cet environnement, c'est impossible. Et puis, ça, je vous fais la version courte, ça a pris des plombes, hein, ça a pris des années. À un moment, dans un premier temps, j'ai appris à ne plus m'énerver pour ça, parce que ça ne servait à rien. Donc, je rangeais. Et puis, à un moment, Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que tu continues à devoir maîtriser cette envie que tu as de t'énerver par rapport à ça? Puisque dans ton couple, l'ordonner, c'est toi. J'ai dit, oui, alors je fais quoi avec ça, Seigneur? T'es bien malin. Ça, je sais, merci que je suis ordonné. Mais alors, dans une équipe de deux personnes, quand il faut mettre de l'ordre, qui doit mettre de l'ordre? Ben, l'ordonner. Voilà, t'es là pour ça, puisque ça te vient naturellement, toi. Pour d'autres choses, ça vient naturellement à Isabelle. Et pas à moi. Et c'est très bien comme ça. Donc, deuxième question à se poser, quel est mon chemin? Alors, Gary Thomas, que vous ne connaissez probablement pas, un auteur chrétien américain, a exprimé dans un de ses écrits que nous possédions tous ce qu'il appelle, et je trouve cette façon de le dire très jolie, des chemins sanctifiés, des chemins qui nous viennent naturellement et qui nous aident à faire l'expérience de la présence de Dieu. Par exemple, parce que l'un de mes chemins intellectuels, j'aime beaucoup les livres, vous le savez, c'est une de mes passions, je peux, à titre personnel, me sentir profondément attiré en proximité avec Dieu en lisant des bouquins de théologie, par exemple. Le même livre qui endormirait Isabelle ou quelqu'un d'autre après 5 minutes. Ce genre de truc, rappelez, ça me passe, l'expression consacrée, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Par contre, le chemin d'un autre sera peut-être, d'une certaine manière, l'hyperactivité, l'hyperengagement. Et cette personne sera intensément consciente de la présence de Dieu au travers d'un projet qui donnerait là aussi parfois à quelqu'un d'autre l'envie de s'enfuir en courant. En fait, nous allons reconnaître quels sont nos chemins lorsque nous nous rendrons compte que nous changeons en les empruntant. Il y a quelque chose qui bouge en nous. Ou parce que nous prendrons des décisions clés lorsque nous serons engagés sur ces chemins-là et la mouche est de retour. Alors, certaines personnes se connectent mieux à Dieu à travers la nature, par exemple. Alors, ça ne suffira pas, la nature, nous sommes bien d'accord. Mais il y a des personnes, vous les mettez 10 minutes en forêt, elles sont connectées, si je peux dire ça comme ça. D'autres, donc, sont des hyperactifs qui trouvent Dieu plus naturellement lorsqu'ils sont engagés dans une cause qui leur tient à cœur. Les intellectuels, je l'ai dit, se sentent poussés des ailes, ils sentent leur cœur se remplir de l'Esprit de Dieu lorsque, justement, leur esprit se remplit de pensées théologiques profondes. D'autres encore sentent que l'Esprit Saint est plus présent en eux lorsqu'ils servent les autres. Et d'autres se connectent dans la solitude de la contemplation, d'autres dans l'interaction avec leurs amis, d'autres enfin lorsqu'ils louent Dieu par le chant, par la musique, qui est un autre chemin. On va prendre, j'ai fait un petit tableau, hein, de ces fameux chemins sanctifiés comme l'écrit Thomas. Le naturaliste trouve Dieu dans la nature. L'ascétique, ça existe, hein, est attiré par les disciplines et les règles, ce qu'on appelle un ascète. Il a besoin de se contraindre pour se purifier. C'est un chemin particulier, mais ça existe. Pour ceux qui connaissent Daniel Bourguet, c'est un de ses chemins à lui. Le traditionnaliste, il aime les liturgies. Bon, chez nous, protestants, la liturgie, ce n'est pas notre truc, mais quand elle est bien écrite, la liturgie, ça, c'est parfois des mois ou des années de réflexion pour choisir les mots qu'il faut, et à travers les mots ont un sens et une densité. L'activiste sent spirituellement vivant en s'engageant dans une cause, je l'ai dit. Le serviteur, il rencontre Dieu en servant, peu importe le service. Hein. Le sensitif, il ressent Dieu au travers de ses 5 sens, ça existe, hein. J'en ai croisé que 2 comme ça, mais ça existe. Le contemplatif, il est attiré par la réflexion et la prière solitaire. L'intellectuel, il aime Dieu en apprenant. Alors, si vous ne vous reconnaissez dans aucun de ces chemins, on a un problème, il faudra qu'on parle. On peut mélanger, j'irai tout à l'heure dans un autre dia, on peut mélanger, vous n'êtes pas limité dans une catégorie. Ne les prenez pas toutes, ce n'est pas raisonnable non plus. Logiquement, il n'y a personne qui concentre en son être toutes ces approches, normalement. Donc, si en lisant ça, ça ne vous parle pas trop, ce n'est pas grave. Mais c'est que vous ignorez tout simplement que Dieu se sert de ce genre de choses pour être proche de vous. Donc, il va falloir, si je peux dire ça comme ça, vous familiariser avec potentiellement chacun des chemins pour voir lequel vous convient le mieux ou lesquels vous conviennent le mieux. Donc, peut-être deux, peut-être trois, vous pouvez cumuler, hein, profiter. Hein. Lorsque vous aurez identifié avec quel chemin vous êtes le plus en résonance, vous découvrirez qu'ils sont aussi les plus durables pour vous. Ils tiennent, ils vont tenir, ils vont être solides dans votre vie. Tout simplement parce que votre propre désir intérieur pour ces chemins-là sera plus grand. C'est aussi bête que ça. Vous savez peut-être que l'on a fait de nombreuses découvertes concernant les différentes formes d'intelligence et d'apprentissage. Par exemple, quelqu'un qui possède une intelligence imaginative, c'est comme ça que ça s'appelle, aura besoin d'imaginer la matière qu'il étudie pour la mémoriser et il devra en plus s'attacher à ce que quelque chose lui permette en permanence d'alimenter son imaginaire afin de pouvoir se concentrer. Ces personnes en étudiant devront par exemple écouter de la musique en même temps pour optimiser leur concentration. Alors en réfléchissant à ça, je me suis dit, enfin, moi j'ai 55 ans, si en période d'examen moi j'avais dû mettre de la musique, en étudiant mon père m'aurait arraché la tête. Donc imaginez le nombre de gosses qu'on a forcés à arrêter d'écouter de la musique quand ils étudiaient, alors que c'était leur façon de se concentrer. Vous savez bien, c'est le cas par exemple de Jessica, notre fille. Donc partant de là, un conseil spirituel qu'on pourrait donner à ces personnes imaginatives ayant du mal à se concentrer dans la prière, parce que la prière demande de la concentration, serait sans doute de leur dire d'écouter de la musique spirituelle, un peu importe quoi, pendant leur temps de prière ou encore de faire une balade de temps en temps, parce que le changement de décor, l'apport d'un élément extérieur, dans leur cas, est propice à leur concentration. Moi, si je passe de la musique en même temps que je fais quoi que ce soit, moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Moi, j'ai besoin d'être concentré sur un truc. Ça nous amène à notre troisième question. Donc, quel est mon style d'apprentissage? Alors, fort heureusement, la croissance spirituelle n'est pas réservée aux personnes qui aiment l'école. Car Dieu nous a câblés de différentes façons, justement. Un homme est plutôt éveillé et proche de Dieu, mais il déteste lire. Ça arrive, les gens qui n'aiment pas lire. De plus en plus, d'ailleurs. Ce qui, en tant que pasteur, m'inquiète un petit peu quand même. Aux entournures, parce que la Bible, quel que soit le support, ça peut être un support numérique, ça reste quand même un texte écrit. Donc, s'il n'y a pas de rapport du tout au texte biblique, on va avoir un léger problème. Mais soit. N'empêche que quelqu'un qui n'aime pas lire, qui n'a pas un bon rapport à la lecture, il ne faudra pas le stigmatiser pour autant. Il faudra l'aider à choisir, à trouver son chemin de prédilection. Il aura d'autres choses à disposition pour grandir, même si la lecture et la méditation de l'écriture restera quand même un élément devant être présent dans son apprentissage. Voilà. Texte biblique, Nouveau Testament, peu importe. Et la prière, ça reste quand même deux éléments indissociables de la vie chrétienne. Mais dans ce cas-là aussi, en termes d'apprentissage, il y a par exemple ce qu'on appelle des auditifs. Alors moi, Jeff, je ne pense pas m'avancer en disant que Jeff Ray est un auditif. Moi, parfois, il me sort des trucs. Tu te rappelles, tu as dit ça en 1994. Et je me dis, moi, j'ai dit ça en 1994. Heureusement qu'il est là pour qu'on puisse. Mais c'est dedans. Donc, il faut faire très attention à ce que vous dites à Geoffrey, hein, parce qu'il n'oubliera jamais. D'autres, je l'ai dit, apprennent surtout en faisant les choses. La plupart des gens, lorsqu'ils doivent monter un meuble, ils suivent le mode d'emploi. Moi, je connais des gens qui ne lisent pas le mode d'emploi. Ça prend dix fois le temps. Hein. Qu'avec le mode d'emploi, sauf si c'est Ikea, ça, c'est... même avec le mode d'emploi, c'est quasi pas possible, en tout cas pour moi. C'est pour ça que je ne sais même plus. Il n'empêche qu'ils vont, par ce chemin-là, apprendre. C'est leur chemin, eux, même si ça énerve la femme ou le mari juste à côté. Et c'est super d'apprendre comme ça en tâtonnant, sauf si le gars ou la femme doit vous emballer votre parachute. Hein. Ça, évitez les gens qui acquièrent de l'expérience de cette manière-là. Donc pour ce genre de personnes, être assis à l'église à écouter un message, comme je suis en train de le faire, et je suis en train de me flinguer moi-même, ne sera jamais le chemin prioritaire pour grandir, même si ça reste important, et vous devez être là dimanche pour entendre ce que j'ai à dire. Donc je suis au chômage technique, hein. Donc, dans le cas de cet homme ou de cette femme qui apprend en faisant, une heure d'apprentissage vaudra peut-être parfois beaucoup mieux que écouter des messages ou de lire des livres, même si ça restera important quand même de s'immerger dans le texte biblique. Au sein d'un couple, vous pouvez avoir une femme qui grandit profondément dans sa vie spirituelle lorsqu'elle est en contact avec des informations enveloppées dans une approche artistique et émotionnelle, par exemple, ou en rapport avec des personnes, alors que dans le même temps, le mari ressentira une émotion tous les 10 ans. Oui, des hommes qui éprouvent des émotions tous les 10 ans, ça existe. Mais comme il y a peu, c'était tous les 20 ans, il y a du progrès. Tout simplement parce que dans le cas de ce monsieur, les émotions profondes interfèrent avec sa manière d'apprendre. Petite parenthèse, ce qui veut dire que si vous êtes en couple ou pas, vous avez des amis, on pense tous des relations sociales, n'attendez jamais de quelqu'un qu'il devienne autre chose que ce qu'il est. Ce que Dieu fait, c'est de faire de nous la nouvelle créature qu'il a créée en nous par la présence de son esprit. Ça oui, donc ce que moi j'appelle devenir la meilleure version de vous-même. Mais moi, rempli de l'amour de Dieu, ça n'est pas Nicolas rempli de l'amour de Dieu, l'expressivité des choses sera différente parce que nous sommes tous différents. Donc mesdames, si votre mari est comme ça, et vous attendez toujours le prince charmant, qu'il devienne ceci, qu'il devienne cela, oubliez. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Nous avons donc tous une façon naturelle d'apprendre. Donc si quelqu'un lit les textes bibliques, lit la Bible plus que vous, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ou elle aime Dieu plus que vous. Il se peut juste qu'il aime ou qu'elle aime la lecture plus que vous. Donc essayez différents styles d'apprentissage et voyez lequel vous correspond vraiment le mieux. Donc ça, c'est les différents styles d'apprentissage. Je ne l'ai pas inventé non plus, j'ai piqué ça dans un bouquin. Voilà. Il y a l'auditif, dont je citais Jeffrey. Il apprend mieux par l'écoute. Le tactile. Oui, faites attention au sens de tactile aussi. Apprend mieux en faisant. L'oral, il apprend mieux en échangeant, dans le contact. Le social, il apprend mieux en groupe. Le logique apprend mieux dans un processus linéaire. L'imaginatif apprend mieux par les arts, les histoires et les images. Il faudrait essayer de vous y retrouver un petit peu comme ça. Bon, si vous avez du mal, c'est pour ça qu'on est un groupe. C'est pour ça qu'on a besoin du regard des autres. Parce que par soi-même, je disais en introduction tout à l'heure, par soi-même, on ne voit pas les choses comme elles sont, on les voit telles que nous sommes. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des autres. Dans une relation d'amour, si c'est pour s'envoyer les pots de fleurs à la tête, ça ne vaut pas la peine. Mais on a besoin des autres pour nous dire qui nous sommes. Donc, si vous avez un peu de doute par rapport à ça, demandez à votre mari ou votre femme, si vous en avez un ou une, demandez à vos amis, à votre entourage, tiens, qu'est-ce que tu penses, ceci, cela, voilà. Ou demandez-moi, je me ferai un plaisir de vous dire. Donc, quatrième question. Quel est mon péché signature? Ben oui, ça, voilà. Le truc qui me distorsionne un peu la vie et qui est systématiquement représentant, qui revient. Parce que vous êtes unique et uniquement vous. Mon père me disait ça souvent, quelle chance que tu es le seul à être comme tu es, pour l'humanité souffrante. Et en 7 ans que je suis devenu pasteur. Les gens esquintés, en général, ils deviennent souvent de... Vous avez déjà remarqué ça? Tous les psys, ils ont une enfance de merde, les bons, j'entends, souvent. C'est comique, ça. Que Dieu se sert du pire, qui transforme le mal en bien, c'est comique, ça. Donc, parce que vous êtes unique et uniquement vous, vous battez également avec une gamme unique de tentations. En fait, personne ne fait l'andouille comme vous, vous êtes unique, pour ça aussi. Les péchés qui vous posent le plus de problèmes sont en fait profondément en relation avec vos plus grands dons et vos plus grands centres d'intérêt souvent. Par exemple, ceux qui sont des leaders nés seront tentés d'utiliser et de manipuler les autres, par définition. Ils sont câblés pour diriger les choses, ils vont instinctivement, à partir de leur ancienne nature, être tentés, même inconsciemment parfois, de manipuler les autres. Ceux qui sont doués pour lier des liens de paix avec les gens, pour aplanir les situations, pour amener du consensus, ils seront souvent tentés par l'évitement, parfois, justement pour éviter de temps en temps de mettre sur la table les choses qui fâchent, mais de temps en temps, il faut le faire. On ne va pas continuer à tourner autour du même problème jusqu'à la nuit des temps, parce qu'à un moment, il faut régler le problème. Donc les gens qui ont cette propension à amener de la paix entre les êtres, et tant mieux que ça existe, ils seront parfois tentés par l'évitement. Ceux qui sont très spontanés, et là c'est un peu pour moi, seront souvent tentés par les impulsions qui les habitent. En fait, ils vont souvent, dans un premier temps en tout cas, dire tout ce qui leur passe par la tête. Alors, si le gars est câblé et un QI de 160 en plus, ça va déborder, quoi. Il y a, je pense, un très beau proverbe dans l'Ancien Testament, je vais le paraphraser de mémoire, mais qui dit que l'homme sage est avare de paroles. Parce que le potentiel de dire des âneries quand on dit quelque chose, évidemment, donc ça fait réfléchir. Celui qui est passé à la postérité sous le nom de Saint Benoît a dirigé une communauté de foi et écrit un des plus fameux guides de croissance spirituelle qu'on appelle la règle de Saint Benoît et qui est encore à l'œuvre dans la grande majorité des monastères. Pourtant, bien qu'il s'agisse d'une règle, et je trouve ça assez fabuleux, il y a introduit de la flexibilité. Par exemple, il explique comment le prieur, donc le supérieur de l'abbaye, doit traiter chaque âme de ses moines différemment. Voilà ce qui écrit Saint Benoît, ou Benoît, c'est vous. Nous sommes protestants. Vous devrez cajoler l'un, réprimander l'autre, persuader un troisième, selon la compréhension et le caractère de chacun. C'est pour cette raison qu'il doit s'ajuster et s'adapter à tous. Il est en position d'autorité, mais c'est une autorité spirituelle. Cette autorité lui vient de Jésus. Alors, Jésus a dit, vous voulez le plus grand parmi vos frères, soyez le serviteur de vos frères. Donc, c'est ce rapport-là. Donc, être en position d'autorité dans quoi que ce soit qui a vaguement rapport avec Jésus, avec le christianisme, vous ne pouvez pas imposer votre autorité. Vous êtes là pour servir les autres. C'est pas pour ça que parfois ça dérape pas, personne n'est parfait. Mais c'est lui qui s'ajuste, c'est le soi-disant supérieur qui s'ajuste. N'oubliez jamais, je cite Paul, Colossiens 3:16, que l'objectif de la croissance spirituelle, c'est la liberté. Ce n'est pas l'emprisonnement dans des règles. Même si, il faut quand même rappeler que la liberté n'est pas synonyme d'auto-indulgence. Je ne suis pas libre de devenir un grand pianiste ou un homme de Dieu, une femme de Dieu, ou quoi que ce soit d'ailleurs, en regardant la TV, en mangeant des chips toute la soirée. Ça ne marchera pas. Vous êtes libre de le faire, mais ça ne marchera pas. Et on va prendre un texte que je tire de la lettre ou de l'épître de Paul aux églises de Galatie, dans le sud de la Turquie actuelle. Je ne peux pas grandir dans l'esprit si, comme Paul dit, je fais de cette liberté que le Christ me donne un prétexte pour vivre selon les désirs de ma propre nature, autrement dit de faire ce que je veux. Donc lorsque je suis conscient, je commence à devenir conscient de mes péchés mignons, je suis au fur et à mesure moins vulnérable quant à leur impact et à leur action. C'est du simple bon sens, mes amis. C'est pour ça qu'il faut un minimum apprendre à se connaître. Vous pouvez discuter avec des soldats qui reviennent de conflits à l'étranger, pendant l'Afghanistan, parce qu'il y en a encore là-bas. Par exemple, la plupart vont vous dire, ce que tu comprends très vite quand tu es là-bas sur le terrain, c'est que tu dois absolument repérer en priorité où se trouvent les mines, les explosifs. Tout simplement pour éviter de sauter dessus. Ben, je crois qu'un peu dans la vie spirituelle et la vie relationnelle, c'est un peu comme ça. Apprendre à se connaître de manière à ce que potentiellement il y ait moins de substances présentes qui peut potentiellement amener de la déflagration dans nos vies ou dans nos relations avec les autres. Et enfin, cinquième et dernière question. Dans quelle saison de ma vie est-ce que je suis ? Rappelez le très beau livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour moissonner, etc. » C'est une dimension, et puis même si le climat est complètement déglingué, il n'empêche qu'on vit encore sous des rythmes de quatre saisons. Et on néglige ces dimensions-là dans nos vies personnelles, alors que nous sommes par définition aussi parfois dans une saison totalement différente. On va donc devoir apprendre aussi à circonscrire la saison dans laquelle nous sommes. Parce que la façon dont vous grandissez spirituellement dépend toujours de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Au début de notre marche avec Dieu, je ne pense pas m'avancer trop en disant ça, nous avons tellement de choses à apprendre. Bon, déjà, il y a un côté d'émerveillement quand on commence à connaître Dieu. Je vous l'ai déjà dit, mais j'habitais là, à côté du parc royal, donc c'était J'étais dans un environnement très vert. Je crois que le lendemain de ma conversion, je me suis retrouvé dans le parc, assis sur un banc. Il y avait un pissenlit devant moi. J'étais en extase devant le pissenlit, quoi. Je n'avais jamais vu qu'un pissenlit, c'était aussi beau. Je ne vous dis pas la tête des passants, hein. Surtout ceux qui prenaient leur chien, qui après une heure sont repassés devant le banc. J'étais toujours là, en admiration, en contemplation de mon pissenlit. Ils ont dû me prendre pour un fou. Donc ça, c'est merveilleux. Maintenant, après ça, ben, il y a l'apprentissage de la vie. On doit passer de l'âge de l'émerveillement, l'enfance spirituelle, à l'état d'homme adulte. Hein. C'est quand même Dieu notre Père, qui est un Père, lui aussi, qui espère que nous devions homme adulte. Nous allons devoir apprendre la vie spirituelle, donc apprendre à être reconnaissant envers Dieu, apprendre à prier, apprendre à méditer l'Écriture. Et tout ça, c'est nouveau au début, forcément. Mais les années passant, ce qui a pu nous aider dans une saison de notre vie peut ne plus nous aider dans une autre saison. Rappelez de lui, C.S. Lewis. Il est fort connu. Il a commencé à être connu en Europe occidentale il y a une vingtaine d'années pour ses adaptations au cinéma des Chroniques de Narnia. C'est le papa de. Voilà, c'est lui qui a écrit les livres. Il est l'équivalent dans le monde anglo-saxon de Perrault et des frères Grimm ici. Mais ce n'est pas que ça, c'est d'abord un prof de langue médiévale à Oxford, on l'oublie parfois, un ami intime de Tolkien, c'est nos anneaux, vous voyez. Quand il s'est, parce qu'il est venu au christianisme, il s'est converti au Christ, et lorsqu'il est venu à Dieu, il s'est pris d'un amour fou pour la Bible, étant donné que c'était un prof de langue médiévale, on peut comprendre. Hein. Alors il la lisait, il la commentait, il donnait des conférences en rapport avec les textes bibliques, il a commencé à faire de l'exégèse biblique, jusqu'au jour... J'ai un peu plombé l'ambiance, où sa femme est tombée gravement malade. Le cancer, on est, si ma mémoire est bonne, dans les années 30. À l'époque, il n'y a pas de traitement, ou quasi pas. Il n'y a pas d'antidouleur, comme on en a aujourd'hui. Autrement dit, C.S. Lewis va voir agoniser sa femme pendant plusieurs mois. Et finalement, son épouse finira par décéder. Alors son chagrin était tellement grand, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, que lire simplement un verset biblique, il pouvait plus. Alors qu'il passait sa vie à ça, juste un peu avant. Il pouvait plus. C'est pas qu'il était devenu résistant à ce que Dieu pouvait bien lui dire dans sa parole, hein, mais que dans sa douleur, pendant des mois, quand il tentait de la lire, cette parole avait un goût de cendre. Il a donc dû vivre dans ces terribles mois sans rapport avec ce qui avait nourri son âme pendant des années. Alors à la fin, avec le temps bien sûr, et l'aide de Dieu, son goût de l'écriture est revenu. Mais pendant tous ces mois de chagrin profond, il avait dû recevoir la grâce et l'appui de Dieu par d'autres moyens que celui-là. Celui-là, pour temporairement, il n'était plus disponible. Il était dans une saison de douleur et de souffrance. Il arrive que nous venions à l'église par habitude ou par obligation, ou par terreur, c'est encore pire. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va dire si je ne suis pas là? Il faut être là. Hein. Okay, bon. Par exemple, parce que la Bible, rappelez ce texte d'Hébreux, hein, qui est très très mal compris, Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos églises, vos assemblées, voilà. Surtout, n'abandonnez pas votre Église. Encore une fois, dans le grec, on est plus près de n'abandonnez pas le Christ. Parce que, comme je rappelais ce que je dis toujours, avant d'abandonner l'Église, on a abandonné Jésus quelque part. Donc, mais comme nous connaissons ce texte, et comme beaucoup de responsables d'Église mettent de la pression par rapport à ça, vous vous dites, je ne peux jamais rater un dimanche, hein, où le feu du ciel va tomber sur ma tête. Hein. Mes amis, ce que Dieu demande, ce n'est pas un record de présence au culte. Hein. C'est une communauté de personnes qui veulent être ensemble. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Moi, si vous venez le dimanche parce que vous vous sentez obligé de venir, hein, je suis certain que vous êtes tous là parce que vous avez envie d'être là, hein, n'est-ce pas? Je termine vraiment. Votre chemin de croissance ne sera pas exactement le même que celui de votre voisin. Il sera unique et ce sera le vôtre et vous pourrez aussi, et ça c'est génial, vous pourrez en faire profiter les autres aussi de cette spécificité. Et ce chemin, quel qu'il soit, ça il faut peut-être le dire, c'est une question d'honnêteté, il ne sera pas toujours facile. Ça n'est pas évident tous les jours de faire ce que Jésus dit. Parce que c'est quand même le but. Hein. Ce n'est pas savoir ce qu'il dit. Ça, c'est le premier stade. Il faut faire ce qu'il dit. Aimez vos ennemis. Tendre l'autre joue. Hein? Ça, c'est un verset, je vous assure. Hein. Je me dis toujours, Seigneur, pourvu que personne n'ait la fâcheuse idée un jour de me mettre une claque, parce que je ne sais pas aujourd'hui comment je réagirai. J'en sais rien. J'espère qu'il y a une centaine d'anges qui vont me maîtriser. Ça, voilà. Je ne sais pas. J'espère que. Mais il faut faire ce qu'il dit. Par contre, il est une décision que vous pouvez prendre maintenant, aujourd'hui. Et cette décision est fondamentale, elle est tellement fondamentale que cette décision vous aidera vraiment à grandir dans votre relation à Dieu. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc vous n'êtes pas obligé de revenir, mais moi je tiens les gens comme ça, par des cliffhangers. Vous voulez savoir la suite ? Il faudra revenir, voilà. En tout cas, je vous laisse avec une dernière pensée que j'ai mis tout à l'heure. La liberté est l'objectif de la croissance spirituelle. Vous rendre libre de tout ce qui n'est pas Jésus. C'est super, hein ? C'est quand même le seul patron digne de ce nom, le seul être au monde qui nous ait aimé à ce point-là, je pense. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.